Voilà, nous arrivons au terme un peu de cette topique sur la personne. Donc comprenez bien la signification de cela, je crois que ça nous aide à comprendre comment la personne est comme le nœud, le lien entre à la fois l'aspect spéculatif et puis l'aspect pratique. On voit qu'on ne peut pas regarder la personne uniquement du point de vue spéculatif, on ne peut pas la regarder uniquement du point de vue pratique. Alors, on voit le lien entre le point de vue de l'esprit et la nature. L'esprit qui ouvre vers un point de vue spéculatif et la nature qui nous met dans le point de vue pratique. Et au fond, c'est toujours ce dilemme constant. Alors, vous voyez, il y aurait une manière de reprendre cette topique, comme toujours, on peut les prendre de diverses manières, mais ce serait peut-être très intéressant de la reprendre pour essayer de comprendre comment dans l'univers philosophique se fait le lien entre le point de vue pratique et le point de vue spéculatif. Je crois que c'est vraiment la personne qui est le lieu de cela. Le Dasein de Heidegger, c'est peut-être cela qu'il a voulu comprendre. Là où on rencontre le point de vue à la fois spéculatif et le point de vue pratique. Alors, nous allons regarder Maritain. Vous connaissez Maritain. Comme Seraïssa, et alors, puisque Seraïssa qui était l'inspiratrice de Maritain, de ça, il ne faut pas l'oublier, il faut essayer de comprendre sa perspective avec celle de Mounier et en même temps son point de vue thomiste. Maritain est un converti, il veut être thomiste. L'impératif catégorique de l'esprit saint, n'est-ce pas, sur Maritain, il doit être thomiste. Comme j'ai connu la source de Maritain, vous comprenez, c'était le père Garrigou-Lagrange. Et quand le père Garrigou-Lagrange est parti à Rome, il a demandé au père de Haut d'aller régulièrement à Meudon pour le remplacer. De sorte que je connais pas mal de sous, n'est-ce pas, par rapport à Maritain, par rapport à Jacques. Alors, c'est ça qui est intéressant, essayer de saisir ce que ça peut représenter. Jacques Maritain, de son côté, a essayé d'éclairer les récentes recherches de la personne, spécialement celle de Mounier, en revenant à saint Thomas. C'est là son mérite. Alors, l'a-t-il bien fait? L'a-t-il fait d'une façon qui soit suffisamment astucieuse et suffisamment vraie? Est-ce que Maritain est suffisamment distingué en saint Thomas, l'aspect philosophique et l'aspect théologique? Je ne crois pas. Un petit peu comme Garrigou-Lagrange. Garrigou-Lagrange, c'est net, c'est le dernier moment de la scolastique. Et la différence entre Garrigou-Lagrange et Ramirez, qui était un grand espagnol, qui était à Fribourg, c'est que Garrigou-Lagrange ne voyait pas la nécessité de sortir de la scolastique. Pour lui, il fallait continuer. C'était aussi un converti à la scolastique, n'est-ce pas ? C'était un converti à saint Thomas. Puisque quand il était entré chez les Dominicains, il avait fait 2 ans de faculté de médecine, il n'avait qu'un seul désir, c'était de reprendre toute la théorie de saint Thomas, toute la philosophie de la vie de saint Thomas, dans la lumière de la biologie qui commençait à naître, la science biologique. Donc il était très moderniste, et c'est pour ça qu'il était tellement anti-moderniste. Mais comme converti, ça fait partie de certaines attitudes profondes. Là. Et il avait ce désir, donc il s'est converti ensuite à l'autonomisme. Tandis que Ramirez, lui, que j'ai connu à Fribourg, voyait qu'il fallait autre chose. Il était l'ultime moment de la scolastique, mais il comprenait qu'il fallait autre chose. Il me dit expressément, il me dit, il faut tout reprendre, radicalement, parce que la scolastique, c'est terminé. Et il sentait très bien qu'il y avait une nécessité d'autre chose. C'est pour ça qu'on s'est si bien entendu avec Ramirez. On comprend comment, dans la mesure où le personnalisme moderne consiste essentiellement en une subjectivation de l'éthique, on en arrive à opposer personne et nature, alors que saint Thomas, dans un regard métaphysique beaucoup plus pénétrant, les avait saisis dans une unité fondamentale et théologique. Ça, il ne faut pas oublier. Hein. Saint Thomas saisit le point de vue de la nature et le point de vue de l'esprit, l'esprit de nous, dans une unité d'un regard théologique. L'imagination. Donc dans une lumière de Dieu, qui voit les deux, il voit l'unité entre les deux. Le point de vue individu et le point de vue personne. En gros, vous voyez bien, l'individu, c'est la nature, qui implique l'esprit, c'est bien évident. Et puis le point de vue de la personne, qui est le point de vue de l'âme spirituelle. Tandis que chez les modernes, alors ça c'est une modernité très nette, dans une pensée dialectique, on va opposer le point de vue nature et le point de vue personne. Au fond, la personne, c'est celle qui est au-delà de la nature. Et c'est ça qui est au fond, constamment pris dans le point de vue actuel. La nature, c'est l'aspect objectif. La personne, c'est l'aspect subjectif. En gros, c'est ça. Vous voyez, la manière dont le père Geffray nous dit la subjectivation consiste essentiellement en une subjectivation de l'éthique. C'est dans Geffray, structure de la personne et rapport interpersonnel. On voit ce qu'il y a de juste dans le jugement du père Geffray. Pour beaucoup de personnalistes modernes, la personne n'est jamais que l'unité supraconsciente des actes intentionnels. Donc il y a l'opposition entre la subjectivité de la personne, l'aspect conscient, si vous voulez. L'aspect conscient, c'est l'aspect de la subjectivité transcendantale. C'est ça le point de vue de la personne. Puis alors le jurès traditionnel de la nature et son objectif. Morale de la personne, morale de la nature. Et là, ce sera pris d'une façon très très forte. La morale de la nature, c'est la morale traditionnelle objective. Et la morale de la personne, c'est la morale de la conscience. Et c'est important parce que c'est le problème qu'on retrouve en théologie morale aujourd'hui. C'est le gros problème. La théologie morale d'aujourd'hui, vous avez déjà dit, ça avait éclaté à Fribourg avec le père Furtner. Et c'est normal que nous soyons toujours en phase de ce problème-là et de comprendre que seule une métaphysique va pouvoir faire le lien entre les deux. Dans la perspective du personnalisme, la personne n'est plus considérée que dans son pouvoir auto-créateur, tandis que la nature est le donné qui s'impose. C'est une autre manière de le voir, vous voyez. La personne a un pouvoir autocréateur. Elle se crée elle-même comme personne. Tandis que la nature, elle est déterminée. Hein. J'ai une nature humaine, je ne suis pas un chien. J'ai une nature humaine. Tandis que ma personne, elle se fait. Je suis responsable de la formation de ma personne et de ma personnalité. Tandis que je ne suis pas responsable de ma nature. J'en peux rien de tout l'atavisme que j'ai sur le dos. J'en peux rien du tout. Je m'en aperçois de plus en vieillit, plus on s'aperçoit de l'enracinement dans lequel on est. Quand on est jeune, on croit que ça n'a aucune espèce d'importance. Et quand on prend un certain âge, on s'aperçoit que la nature s'est très enracinée. La personne implique une intériorisation, une immanence de plus en plus profonde, dans une autonomie qui se veut totale. La nature est déterminée, elle nous lie au monde animal, genre, à telle espèce de vivant. Progressivement, elle se produit, il se produit une sorte de rivalité entre les deux, à tel point qu'on pourra parler d'une morale de la personne, d'une morale de la nature. Donc il faut bien saisir ça, parce que je crois que c'est quand même un problème de ces 50 dernières années, si vous voulez, qui est au cœur de toute la théologie morale. Elle n'en est pas sortie. Hein? Bien sûr, elle n'en est pas encore sortie. On voit bien qu'on essaie, on est en face. Le problème de la morale de situation, si vous voulez, et la morale objective, quoi, c'est pour reprendre la morale des principes et de la loi. Alors, il y a la morale des deux. Et c'est toujours une opposition qui existe, qu'il faut sentir, parce que je crois que si on ne le sent pas, il y a quelque chose de la modernité qu'on ne sent pas. Il faut le sentir, ça. Il faut sentir très fort, ce point de vue-là. Mais il faut essayer de trouver une solution. C'est dans ce climat qu'il faut essayer de comprendre la position de Jacques Maritain. Je crois que Maritain sentit très fort les problèmes. Maritain, il sent les problèmes. Il ne les résout pas. Il les sent. Et quand il les résout trop vite. Parce qu'il les résout par mode d'autorité. Saint Thomas dit. Ça, c'est pas théologique. C'est pas, je veux dire, c'est pas philosophique. Et on ne peut pas faire ça. C'est très mauvais tomisme. Puisque pour saint Thomas, l'autorité en philosophie, c'est la dernière des raisons. Alors quand on fait ça, ça prouve qu'on ne sait plus quoi dire. Alors on s'appuie sur la vieille canne. Et saint Thomas est une vieille canne qui tient bien, qui est encore bonne, qui a été révisée plusieurs fois, mais qui a passé plusieurs fois. Mais ça tient, il y a quelque chose qui demeure. Mais ce n'est pas philosophique. Donc je crois que Maritain a très bien saisi. Il a essayé de comprendre la position. Donc, il a essayé de comprendre cette difficulté. Il veut reprendre la doctrine thomiste de la personne, assumant la nature, tout en tenant compte des revendications modernes de la personne. Maritain écrit ceci. Je vais vous citer quelques passages de Maritain, que j'espère être les plus typiques. Si l'un d'entre vous connaît bien Maritain, il y a d'autres passages très typiques sur la personne, qu'il me les donne. C'est intéressant toujours de voir la manière dont Maritain traite cette question. On peut dire qu'il y a comme une sorte de conflit chez nous entre personne et nature. C'est Maritain qui parle. Hein. C'est de Bergson à Thomas d'Aquin, page 190. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de conflit, j'avais dit rivalité, chez nous entre personne et nature. Chez nous, dans la demeure. Hein. J'entends entre la ligne métaphysique de la personne et la ligne métaphysique de la nature. Il n'y a pas de ligne métaphysique de la nature, mais ça ne fait rien. Mais ça, ça fait partie du langage de Maritain. Il n'y a pas de ligne métaphysique de la nature. Il y a une ligne métaphysique de la substance, mais pas de la nature. La nature implique des structures constitutives reçues et déterminées, adonum. C'est bien la physique, c'est pas du tout la métaphysique. Ces structures sont reçues. Elles ne viennent pas de la personne comme sujet premier d'opération indépendante. Notre intelligence a une nature supraphysique. Notre volonté aussi. Elles sont ainsi, en tant que puissance ou faculté, distinctes de cette situation immatérielle de surabondance, de ce jeu actuel qui est leur opération, et qui, comme telle, émane de la personne et marque l'épanouissement de sa spontanéité. La nature de mon intelligence et celle de ma volonté sont reçues. Elles ne viennent pas de ma personne. Vous voyez bien les aspects qui sont ici à concevoir. Tout simplement, on voit très bien la ligne de la personne au niveau métaphysique, la ligne de la nature qui est le donné. Et encore, il y a en nous animaux raisonnables, un désir naturel qui n'est pas précisément de nous, mais d'un élément transcendantal en nous, à dépasser la condition humaine. Donc il y a quelque chose qui nous demande de dépasser l'homme. Dépassement de l'homme, l'élément transcendantal en nous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'élément transcendantal en nous? Ce qui ne va pas du reste sans quelques accidents et nous fait trop souvent désirer d'être des animaux déraisonnables. Mais précisément, parce que ces aspirations à dépasser la condition humaine ne sont pas des aspirations de notre nature spécifique, mais seulement d'un élément transcendantal en nous, elles restent inefficaces et conditionnelles. Elles n'ont aucun droit à être exaucées. Si elles sont exaucées, en quelque mesure, ce sera par grâce. C'est pas commode à bien saisir, hein. Je sais pas si vous voyez clairement, mais c'est pas toujours très clair. Maritain ne fait pas que reconnaître la distinction de la nature et de la personne. Il insiste sur leur aspiration différente, donc leur finalité différente, voire opposée, pour mieux mettre en valeur les aspirations propres de la personne, aspirations qui ne peuvent s'expliquer que par un élément transcendantal en l'homme. Donc la personne, c'est cet élément transcendant, subjectivité transcendantale. Et du reste de Kant, Saint Thomas ne dira jamais qu'il y a un élément transcendantal à la personne. Pour Saint Thomas, ça n'a pas de sens. Un élément transcendantal. Parce que quelles sont les notions transcendantales sont des notions, ce n'est pas des éléments. Et alors la petite confusion qui passe entre l'élément et la confusion. L'élément, c'est un pos. La notion, c'est l'ordre de l'appréhension. Alors, on lit les deux. Et c'est là qu'on voit que le thomisme n'est plus net, n'est pas repensé. L'élément, c'est quelque chose, mais il n'y a pas d'élément transcendantal. C'est contradictoire, un élément transcendantal. En bon thomisme, je fais la critique de Maritain en bon thomiste, hein, c'est-à-dire en prenant saint Thomas dans toute la rigueur. Hein. Comme dirait Maritain, un thomiste dur. Parce que c'est comme ça qu'il a dit par rapport à Nicolas. Un thomiste dur. Il y a un thomiste mou et il y a un thomiste dur. Ben, je suis pour le thomiste dur, n'est-ce pas ? Vous voyez bien, là, je suis avec Nicolas. Parce que je crois qu'en effet, les mots de saint Thomas ont une signification nette. Élément. Et vous voyez, parler d'un élément transcendantal, ça n'a pas de sens. Au sens absolu, chez saint Thomas. Pourquoi ? Un élément, c'est une certaine réalisation matérielle. Transcendantale, ce sont les notions transcendantales qui sont du côté objectif. Tandis que l'élément est du côté de la matière. C'est le fondement. Alors, je parlais d'un fondement transcendantal. Ça ne va pas très bien. Mais, je dis ça, ce n'est pas pour le critiquer, mais c'est simplement pour voir que dès qu'il y a une petite confusion au point de départ, vous ne pouvez plus saisir en fait. C'est absolument impossible. Vous êtes dans l'impossibilité de saisir. Dès qu'il y a ça. Donc, par un élément transcendantal. Les aspirations profondes de la personne, c'est par un élément transcendantal en l'homme. Les conditions de la nature humaine sont alors dépassées. Mais souligne Maritain, nos aspirations personnelles demeurent inefficaces. Il faut la grâce. L'homme ne peut exister qu'avec la grâce. La personne humaine ne peut exister qu'avec la grâce. Vous voyez l'ontologisme que nous avions déjà découvert, hein, qui se ramène à l'intérieur du Maritain. Et ça, c'est quand même très important de bien saisir ça. Donc, il y a un élément transcendantal. Essayez de comprendre. Hein. Élément transcendantal. Chez saint Thomas, il y a élément et il y a transcendantal. C'est vrai. Il y a les deux. Et le cocktail est assez difficile à faire. Hein, parce que ce sont les rationnels. Les rationnels sont transcendantales. Les notions sont transcendantales. Il y a les cinq transcendantaux. Mais les cinq transcendantaux ne sont pas du tout au niveau de la personne, chez saint Thomas. Pas du tout. Vous savez bien que Maritain mettra un sixième transcendantal qui est le beau et qui est personnel, qui est propre à l'homme. Alors on retrouve la même notion. C'est qu'au fond, on conçoit le transcendantal chez saint Thomas au niveau de l'être. L'être n'est pas au même niveau que la personne. La personne, c'est un pot, c'est un comment, un pos. L'être, c'est comment tout. C'est ce qui est premier. Et les cinq transcendantaux sont au niveau de l'être. Alors, vous voyez la conclusion. On ramène la personne à l'être. On ramène l'être à la personne. Alors, on comprend la notion transcendantale. Et l'élément comme tel. S'il veut être thomiste, hein, il aurait parfaitement le droit de parler comme ça en définissant ces termes. Il a le droit, j'ai tout à fait le droit d'employer le mot transcendantal à la manière de Kant. J'emploie transcendantal à la manière de Kant. Alors à ce moment-là, l'élément transcendantal a une signification. Mais dans la manière de saint Thomas, non. Il ne faut pas être dupe des mots. Hein, il faut comprendre. La philosophie n'est pas au niveau des mots. Elle est au niveau de ce que, par les mots, nous pouvons atteindre et saisir du réel. Alors, la subjectivité transcendantale de Kant peut aller avec un élément transcendantal. D'accord. Mais si je suis avec saint Thomas, non, il faut séparer les deux. L'élément, c'est le fondement. L'élément, c'est le fondement. C'est très difficile à préciser. C'est du côté de la causalité matérielle comme fondement. C'est ça, l'élément. Alors, d'autre part, pour montrer l'autonomie de la personne à l'égard de la communauté, c'est là où le point de vue dans lequel... Donc, vous voyez qu'au point de vue de la personne, c'est pas très très bien défini. Tout ça qu'on peut dire, c'est pas très net, c'est pas défini de façon absolue. C'est difficile à comprendre. Alors, le second problème de Maritain, il y a deux problèmes pour la personne. Il y a le problème de la nature et de la personne. Il y a le problème de la communauté de la personne. Donc il y a un problème politique, éthique, et un problème métaphysique. Et au fond, les deux, Maritain va essayer de les unir et donner une solution pour les deux. Alors, pour montrer l'autonomie de la personne à l'égard de la communauté humaine, Maritain reprend la fameuse distinction de l'individu et de la personne. L'homme comme individu est partie de la communauté. Comme personne, il est au-delà, il la transcende. Donc nous retrouvons l'élément transcendantal, mais pas tout à fait de la même manière. Il la transcende, car il est individu par son corps et personne par son esprit. Oui, ça va pas très bien. Parce que le corps et l'âme spirituelle ne font qu'un être. Alors, je peux distinguer esprit et personne, mais je ne peux pas les séparer. Je peux distinguer esprit et corps, je peux les distinguer. Je peux distinguer par le fait même individu et personne, je ne peux pas les séparer. Or, quand il s'agit d'une philosophie communautaire, je suis au niveau de l'opération, comme l'éthique. Or, quand je suis au niveau de l'opération, les opérations sont du sujet, c'est-à-dire de l'individu et de la personne. Vous n'allez pas dire au cours de la journée, « Ah, tiens, maintenant je fais une opération individuelle. » Est-ce que quand vous allez manger, c'est une opération individuelle ou une opération commune, personnelle? Au réfectoire ne pénètrent que les individus. Les personnes demeurent en dehors dans leur cellule. N'est-ce pas? Parce que c'est la personne pensante. Et l'individu mangeant. Alors à ce moment-là, vous comprenez la différence qui existe entre les deux. Donc, individu et personne, c'est tout à fait légitime comme distinction au niveau théologique, au niveau métaphysique. C'est tout à fait légitime. Mais dès que je suis au niveau de l'opération, ce n'est plus légitime. Tout est là. Donc on a compris ça, on comprend que la distinction de Maritain ne porte pas. Oui. Il y a un petit peu quelque chose de malaise, c'est ça qui est très curieux, il y a une espèce de confusion des domaines que Maritain opère. Et alors cette confusion des domaines fait qu'au bout d'un certain temps, on ne comprend plus du tout où l'on en est. Je continue. L'homme comme individu est partie de la communauté. Comme personne, il est au-delà, il la transcende. Car il est individu par son corps et personne par son esprit. Cette distinction entre individualité et personnalité, qui, affirme Maritain, est fondamental dans la doctrine de saint Thomas et tient aux racines même de la métaphysique thomiste, peut se résumer ainsi. Les racines même de la métaphysique thomiste, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est substance et accident, c'est acte et puissance. C'est pas individu versant. Faut prendre les paroles avec sérieux, quoi, autrement. Cette distinction entre individualité et personnalité, qui, affirme Maritain, est fondamentale dans la doctrine de saint Thomas, et tient aux racines mêmes de la métaphysique thomiste. Vous voyez, la référence, c'est les trois réformateurs, où Maritain dit la distinction entre individu et personne est plutôt l'un des thèmes fondamentaux du personnalisme maritain. Les fondements du thomisme de personnalité. On peut la résumer ainsi. L'individu s'oppose à la personne, comme l'aspect de partie s'oppose à celui de tout. La personne, en tant qu'individu, est partie de la société, mais en tant même que personne, elle est un tout. Je crois que ça exprime bien ce que Maritain veut dire. Alors, je lis ce passage de Maritain. Personne n'est bien commun. Il n'y a pas en moi une réalité qui s'appelle mon individu et une autre réalité qui s'appelle ma personne. C'est le même être tout entier qui, en un sens, est individu, en un autre sens, est personne. Donc, c'est une distinction de raison. C'est une distinction qui applique une distinction formelle. C'est juste. Je suis tout entier individu en raison de ce qui me vient de la matière. Tout entier personne en raison de ce qui me vient de l'esprit. C'est déjà beaucoup plus délicat. On coupe les deux, oui. Parce que l'individu se prend de la matière et de la quantité, donc c'est la matière. Comme un tableau tout entier est un complexe physico-chimique en raison des matières colorantes dont il est fait, et tout entier une œuvre de beauté en raison de l'art du peintre. Si vous voyez bien la distinction qui se fait entre les deux, vous voyez, vous pouvez toujours rattraper toute la couleur, je la mets dans un petit tas, alors vous avez l'élément matériel de l'individu. Et puis l'élément personnel, c'est ce qui relève de la beauté en raison de l'art du peintre. On voit bien l'intérêt de ces interprétations, mais il faut se demander si elles ne cherchent pas à faire coïncider la pensée de saint Thomas avec une vision différente de la sienne. La distinction réelle que Maritain reconnaît entre nature et personne n'implique pas nécessairement le conflit dont il parle. Peut-on vraiment parler d'un conflit entre personne et nature? Chez saint Thomas, sûrement pas. Il n'y a pas de conflit. C'est indispensable. Saint Thomas voit entre esprit et matière une connexion mirabilis. Ce n'est pas un conflit. Une connexion admirable. C'est le chef-d'œuvre de Dieu d'avoir uni l'esprit et la matière. Dieu n'est pas dialecticien pour faire l'unité d'un conflit. Non. C'est que, entre la matière et l'esprit, il y a une connexion mirabilis. Saint Thomas voit entre l'esprit et la matière une connexion admirable. On peut donc dire qu'il y a pour lui un ordre admirable entre personne et nature. Le conflit que nous pouvons constater au niveau du développement de notre vie humaine ne se situe pas au niveau des principes, mais des désirs. Il peut y avoir conflit en nous, à cause justement de notre nature est née dans un état de péché originel, dans un état de péché. Donc il y a une corruptibilité en nous. Notre état de nature est corruptible. Notre état de nature nous pousse vers le concupiscible, nous pousse vers le point de vue de l'orgueil. Et donc, il y a un conflit, mais ce n'est pas à cause de la nature et de la personne. Le conflit est à un autre niveau. Le conflit est au niveau de l'état de nature à cause et conséquence du péché originel. Voilà ce que dira le théologien. Le philosophe, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, il y a un conflit au niveau des désirs, mais pas au niveau de la nature et de la personne. Donc, confondons pas le point de vue psychologique et le point de vue métaphysique. Il y a une petite confusion entre les deux. Au niveau psychologique, il peut très bien y avoir des conflits entre la nature et puis l'esprit. C'est bien évident. Les conflits, on les connaît trop bien, pas la peine d'insister. Mais c'est au niveau des désirs, c'est pas au niveau de ce que représente la nature et ce que représente la personne. L'opposition entre la nature spécifique et l'élément transcendantal est également très significative, car le terme transcendantal a ici une signification différente de celle des transcendantaux chez saint Thomas. N'est-il pas employé ici, en un sens métaphysique et non plus critique, pour exprimer ce qui est au-delà de la nature spécifique, donc transcendantal tout simplement comme au-delà, c'est-à-dire l'esprit. L'esprit est considéré comme en opposition à l'égard de la nature, dans une sorte de vision dialectique, et non pas comme un degré supérieur du vivant, ou comme une modalité particulière de la substance. Je crois que ça aussi c'est très net. Un manque de précision dans le langage. Et alors, ça fait des cocktails qui ne vont plus du tout, qui sont impensables. Il est évident que la personne signifie quelque chose que ne signifie pas la nature. Elle signifie une dignité dans l'ordre de l'être, ce que saint Thomas souligne, et ce que nous avions vu, alors que la nature signifie une détermination dans l'opération vitale, ordonnée à une fin. La nature, c'est un principe d'opération en vue d'une fin. Ça, c'est net. Tandis que la personne, c'est une dignité dans l'ordre de l'être. Cependant, la nature ne dit pas premièrement limite, mais au contraire capacité d'opération orientée vers une fin, et donc capacité de dépassement. Il n'y a pas d'opposition immédiate entre personne et nature. Il s'agit seulement d'aspects différents au moyen desquels nous exprimons la richesse de l'homme, qui, en tant que personne, possède une autorité et un dominium sur ses activités, mais en tant que nature, implique un ordre vers une fin, et en tant que telle nature, un ordre vers telle fin. Alors, si je redonne aux mots leur signification propre, vous voyez bien que je ne peux pas dire qu'il y a conflit, il y a tout simplement des perspectives différentes. D'autre part, ceci c'est pour la première partie, vous voyez, de définir la personne comme un élément transcendantal dans le point de vue de la nature. D'autre part, n'oublions pas qu'entre nature et personne, il y a un certain ordre réciproque à des niveaux différents. Au niveau spirituel, la nature est pour la personne. Au niveau biologique, où la personne se ramène à l'individu, celui-ci est pour la nature. Je peux le dire. Il y a des réciprocités différentes et des finalités différentes. Quant à la personne humaine, librement se nourrit, elle entretient sa nature et non pas seulement sa personne. Et quand elle essaie de faire la métaphysique de la personne, elle vit immédiatement au niveau personnel, sans faire abstraction de sa nature, si sa philosophie est réaliste. Je peux penser, quand je pense, la nature substance, ça fait partie de mon individu. Donc vous voyez, c'est très important, je crois, de bien comprendre que la distinction individu et personne est au niveau d'une analyse métaphysique, et qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre les deux, il ne peut pas y avoir de conflit. Quant à la distinction de l'individu et la personne qui essaie d'exprimer la complexité de l'homme, l'homme-personne est comme un tout autonome, l'homme-individu est partie de l'univers, membre de l'espèce et de la communauté, elle est en réalité très délicate. On voit bien ce que Jacques Maritain veut dire en affirmant « Je suis tout entier individu en raison de ce qui me vient de la matière. » Et tout entier personne en raison de ce qui me vient de l'esprit. Mais il serait plus exact de dire, pour sauvegarder l'unité d'être de l'homme, la matière qui est en moi fonde mon individualité. et mon âme spirituelle me permet d'être une personne. C'est tout simplement les deux aspects, l'un vient compléter l'autre. L'être de ma personne et de mon individu est le même. Il n'y a pas deux êtres différents. C'est la même existence. L'exister de l'individu et l'exister de la personne. Mais la personne qui signifie autre chose que l'individu implique un principe propre, substantiel. L'individu, au contraire, assumé par la personne, lui est totalement relatif. Ne confondons pas la distinction de la personne et de l'individu avec la distinction de la nature forme et de la nature matière. Faut pas confondre les deux. Ces deux distinctions ne se situent pas du tout au même niveau. L'une est au niveau de l'être-esprit, l'autre est au niveau du devenir. Faut faire grande attention. Faut pas manipuler des distinctions d'un plan vers un autre plan. N'oubliez jamais, distinction nature-forme. Hein. C'est pour ça que j'aime toujours dire nature-forme. Nature-matière. Cette distinction est importante. Elle est au niveau du bruit. C'est qui est mu. C'est ce qui est mu que je distingue. Pas autre chose. On peut être mu, mais c'est pas autre chose. C'est ce qui est mu. Dès qu'il n'y a plus de devenir, c'est-à-dire dès qu'on est dans l'ordre de l'être. Dans l'ordre de l'être esprit, dans l'ordre de l'être physique, je ne suis plus à ce niveau du devenir. Donc cette distinction ne peut plus s'appliquer. Ça, c'est capital de comprendre ça. Parce qu'autrement, vraiment, on ne saisit plus du tout ce qu'Aristote nous dit et ce que saint Thomas veut nous dire. Et on fait des confusions. Parce que c'est très très facile hein, de faire des analogies entre une distinction et une autre distinction. Et alors, à partir de là, on croit progresser. On ne progresse pas en faisant des analogies comme ça. Les analogies nous aident à comprendre, mais ce n'est pas un procédé de progrès. Quand on se sert d'analogies pour progresser, on dit non, il faut être sûr que je vais tomber en faisant. On progresse par l'action. On progresse en revenant à l'expérience. Mais pas autrement. Autrement, on perd pédale. Oui, c'est le défaut de la scolastique, ça. Le défaut de la scolastique décadente, ça a été justement de jouer avec les analogies. D'un plan vis-à-vis d'un autre. Alors on ne progresse pas. C'est très brillant, c'est intéressant. Parce que toute analogie fait appel à une intuition. Donc c'est extrêmement séduisant de faire une analogie en mettant une analogie avec une autre. Mais ce n'est pas ce qui nous permet de vraiment philosopher. La philosophie, ça consiste à faire des analyses, à analyser. Une fois qu'on a fait une analyse dans un domaine, on peut faire des analogies avec un autre domaine. C'est très bien. Ça éclaire. On découvre. On découvre les analyses à des plans différents. L'analyse de la cause formelle, l'analyse de la cause matérielle, l'analyse de la cause efficiente, l'analyse de la cause finale, ça se fait par les causalités. Mais quand on transpose un domaine à l'autre, faisons grande attention, parce que ces analyses ne sont pas les mêmes. Les analyses de l'être ne sont pas les mêmes que celles du devenir, ne sont pas les mêmes que celles du vivant. Mais il y a des parallélismes intéressants à noter. Il faut faire attention. Ça, c'est pour bien comprendre ce que... Parce qu'au fond, c'est ça, le défaut de Maritain. Quant à la distinction entre l'individu et la personne qui essaie d'exprimer la complexité, elle est en réalité très délicate. On voit ce que Jacques Maritain veut dire en affirmant « Je suis tout entier individu ». Alors, il faut bien comprendre. Il serait plus exact de dire, pour sauver l'unité de l'être humain, « La matière qui est en moi fonde mon individualité ». Elle n'est pas mon individualité, mais elle fonde mon individualité. Et mon âme spirituelle me permet d'être personne. Ce n'est pas ma personne. Mais c'est un tout, la personne. Donc c'est l'âme et le corps. C'est les deux. Et par le corps, c'est l'individu. Donc la personne implique l'individu. C'est impossible autrement. Je ne peux pas séparer la personne de l'individu. L'être de ma personne et de mon individu est le même, mais la personne qui signifie autre chose que l'individu implique un principe propre, substantiel. L'individu, au contraire, assumé par la personne, lui est totalement relatif. Ne confondons pas la distinction de la personne et de l'individu avec la distinction de nature-forme et de nature-matière. Ces deux distinctions ne se situent pas du tout au même niveau. De plus, si la distinction personne-individu est parfaitement exacte au niveau de l'analyse métaphysique, il ne faut pas la projeter dans le domaine pratique de l'opération humaine. C'est pourquoi une telle analyse demande à être complétée au niveau de la finalité si l'on veut pouvoir discerner ce qui, en l'homme-personne, transcende la communauté et ce qui, en l'homme-individu, en demeure dépendant. Donc, c'est les deux grosses critiques, voyez, que je ferai à Maritain. Ces deux aspects, la personne prise comme élément transcendantal, surtout individu et personne au niveau politique. Tant qu'on a compris ça, on comprend qu'on ne peut plus utiliser les distinctions de Maritain. C'est tout. Elle tombe. C'est tout. Il faut reprendre le problème autrement. Alors je dis un tout petit mot parce que c'est intéressant. Dans son étude sur la structure de la personne, le père Geffray interprète ainsi les affirmations de Jacques Maritain que nous avons citées. C'est interprété. Geffray, c'est un professeur, c'est un dominicain qui enseigne à l'Institut catholique de Paris, n'est-ce pas ? Que j'ai bien connu. Alors, voici ce qu'il dit. Monsieur Maritain, vous lui direz Jacques, hein, serait le premier à le reconnaître. Le mot conflit est tout à fait impropre. Mais il cherche par là à exprimer l'affleurement à la conscience d'une non-coïncidence ontologique entre personne et nature. Vous avez tous compris. Hein? Mais il cherche par là à exprimer l'affleurement à la conscience d'une non-coïncidence ontologique entre personne et nature. La nature comme structure constitutive est quelque chose de reçu. Et en ce sens, elle s'impose à nous. Au contraire, l'activité immatérielle de la personne, comme sujet connaissant et aimant, est une création originale de chaque personne, un fruit qui ne procède que d'elle. Et la nature et la personne voudraient, si cela était possible, que l'affranchissement dont témoignent ces opérations spirituelles soit la condition même de son existence tout entière. Je ne sais pas si j'ai eu ce désir-là. La personne voudrait, hein, vous voyez, souligner ça, voudrait, donc cette espèce de nostalgie terrible de la personne, hein, et la personne voudrait, si cela était possible, donc c'est impossible, que l'affranchissement dont témoignent ces opérations spirituelles soit la condition même de son existence tout entière. Donc là, le propre de la personne, c'est de vouloir se déconditionner. Le problème de la personne, c'est de vouloir toujours être au-delà du conditionnement et de pouvoir réaliser cela. On réalise ça dans les rêves, mais pas autrement. Donc c'est plus de la métaphysique. Hein. Que l'affranchissement dont témoignent ces opérations spirituelles soit la condition même de son existence tout entière. Or, en fait, la personne doit compter avec les limitations que lui impose le corps par son esprit même. Elle dépend d'objets et de mesures autres qu'elle-même. Enfin, plus profondément, sa nature est déterminée à un autre effet qu'elle-même, même lorsqu'il s'agit de cette surexistence illimitée de la connaissance et de l'amour. Ainsi, quand nous disons avec Maritain que la personne demande à se déterminer elle-même dans son être même, et par là cherche en quelque sorte à dépasser sa condition de créature, nous ne considérons plus la personne comme une nature enfermée dans un genre et dans une espèce, mais comme une perfection transcendantale dans sa nature métaphysique. Je dirais un petit mot sur le père Geoffrey la semaine prochaine, parce que c'est intéressant. C'est intéressant de voir la manière dont père Geoffrey va essayer à la suite de Maritain, et à la suite de la pensée moderne, de donner une nouvelle conception de la personne. Je suis salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu.